Le printemps avait fait fleurir les prés. Le petit peuple des fées s'y abattait joyeusement, qui butinant le nectar floral, qui flirtant ensemble, qui voletant entre les brins d'air dans une course effrénée, qui essayant d'apprivoiser des insectes pour en faire des animaux de compagnie. Au milieu de toute cette agitation féerique et champêtre, un fée aux ailes de libellule translucide contait fleurette à une fée aux ailes de papillon rouge et noir. Pour mieux impressionner la belle, il était monté sur le dos d'une mésange bleue qui lui répondait au doigt et à l'œil. Ravie de tant d'attention, la petite fée pouffait de rire, minaudant auprès de son soupirant. Bientôt, d'autres membres bourdonnants du petit peuple fée entourèrent l'oiseau, curieux de voir un animal aussi gros apprivoisé par l'un de leur race. Cela arrivait occasionnellement, mais suffisamment rarement pour que tout le monde vienne y jeter un coup d'œil de plus près. Lorsqu'elle réalisa qu'elle était le centre de l'attention, la mésange gonfla son poitrail jaune vif de fierté. Le fée était tout aussi satisfait de son assemblée et en profita pour se donner en spectacle. Il montra à ses comparses les quelques tours que l'oiseau acceptait de réaliser pour lui. Sous les applaudissements et les cris de joie, la fée aux ailes de papillon rejoignit son galant sur le dos du passereau coloré. Ce dernier emmena ses deux petits cavaliers haut dans le ciel à tire-d'aile. Ils survolèrent des korrigans qui dansaient en ronde en chantant à tue-tête des paroles incompréhensibles au milieu des menhirs. Puis une chasse à court du grand peuple des fées, les elfes. N'ayant pas à voler eux-mêmes, les deux tourtereaux ne se firent pas prier pour profiter du voyage. Lorsque la mésange se posa aux abords d'une rivière traversée par un pont à trolls, ses petits cavaliers mirent pied à terre. À l'ombre d'un bolet au grand chapeau, ils devisèrent du dragon dont ils avaient aperçu l'antre au loin et des cris stridents d'une banshee qui avait annoncé en pleurant un malheur à venir sur un château. Ils passèrent ensuite la nuit dans un nid abandonné, mais encore tapissé de duvet, se livrant à moultes acrobaties amoureuses et hautement inconvenantes à raconter en bonne société. Le petit peuple fée n'avait que faire des convenances et les deux tourtereaux s'aimèrent ainsi de manière créative une bonne partie de la nuit durant. Et ils continuèrent de vivre ainsi d'amour et d'eau fraîche, alors même que la jolie fée aux ailes de papillon rouge et noir s'arrondissait. Quelques jours plus tard, elle pondit une grappe d'œufs à l'abri des fondations lézardées d'une maison d'humains, en ruine, au cœur d'une forêt. Ceci fait, elle s'envola, de nouveau légère, vers d'autres cieux, oubliant aussitôt sa progéniture et le fée aux ailes de libellule qui s'était, lui aussi, lassé de sa compagne. Ces frivoles créatures passèrent plusieurs mois à butiner de droite à gauche, avant de se retrouver au détour d'un tournesol. La mésange avait été remplacée par une tourterelle, mais les débuts de leur nouvelle amourette furent les mêmes. Une fois dans les cieux, confortablement installée sur le dos moelleux de l'oiseau, le paysage ne se montra pas aussi idyllique que la fois précédente aux deux fées. Tout l'horizon était barré d'une ombre titanesque qui avançait, recouvrant le monde d'une cape obscure vers laquelle se précipitaient des brumes multicolores. En réalité, les filaments lumineux ne se dirigeaient pas en direction du voile ténébreux, mais étaient absorbés par lui. Les petits tourtereaux chevauchant la tourterelle distinguèrent au loin un dragon fuyant à toute allure l'obscurité. Mais le voile l'enveloppa et lui arracha une intense lumière qui rougeoyait comme une braise. Le cri de douleur du dragon s'arrêta brusquement et son corps inerte chut, provoquant un tremblement qui ébranla les alentours. Si jusqu'ici toutes les fées présentes avaient contemplé le spectacle avec les yeux agrandis par l'horreur, la terreur prit le dessus et toutes s'envolèrent à tire d'ailes pour s'éloigner le plus possible de l'ombre qui avançait dans leur direction, aspirant l'énergie magique du monde entier. Le fée éperonna sa tourterelle qui, obéissant à l'ordre, se mit également à fuir à toute vitesse. À leurs pieds, les korrigans se réfugiaient dans leurs salles secrètes sous les menhirs et dolmens. Les elfes régaliens avaient abandonné toute dignité et fuyaient en perdre haleine, rejoignant leur royaume de l'autre côté des arbres et des lacs. Les banshees se fondirent dans les pierres des demeures qu'elles hantaient, et les trolls se tassèrent sous leurs ponts. Toutes les créatures magiques s'employèrent à fuir et à se cacher de l'ombre implacable. Sa petite compagne agrippée à lui, il se retourna pour surveiller l'avancée des ténèbres, fasciné. Il remarqua que le voile d'obscurité ne s'y tirait pas, mais avait une taille finie. De l'autre côté du voile, le ciel était de nouveau bleu. Cela lui donna une idée. Il allait faire comme les elfes et les autres. Attrapant la fée aux ailes de papillon, il se jeta de sa monture. Ignorant ses cris, il fondit en piqué en direction de l'arbre le plus proche, un chêne centenaire. Plongeant sous les racines de ce dernier, il se plaqua avec sa compagne tout au fond et il expliqua à la fée tremblante de terreur qu'ils attendraient là, en sécurité, le passage des ténèbres et qu'ils sortiraient une fois que le danger serait passé. L'ombre qui aspirait la magie de toutes les choses sous forme de brume colorée passa l'arbre où les fées s'étaient réfugiées. Elle enferma les elfes et les korrigans dans leur royaume, scellant les entrées en aspirant leur magie et tua les autres, aspirant la magie de leur corps. Elle fit de même avec les banshees. Seules celles qui s'étaient réfugiées au plus profond des fondations survécurent, mais ne pouvaient plus sortir des pierres. Les trolls se pétrifièrent sous les ponts. Les dragons qui n'avaient pas succombé s'enterrèrent au plus profond des montagnes et entrèrent dans un sommeil profond qui pouvait durer des milliers d'années pour ceux qui seraient assez puissants pour survivre aussi longtemps. Ils avaient besoin de magie pour vivre, et il n'en restait qu'une infime quantité à la surface. La plupart des créatures magiques avaient été balayées par le voile ténébreux, qui, après avoir absorbé l'énergie du monde, disparut comme il était venu. Restaient les animaux communs et les humains. Des créatures magiques ne subsistèrent plus que les contes que les hommes et les femmes se transmettaient entre eux et à leurs enfants. Ces contes entrèrent dans le folklore en quelques générations seulement. Bientôt, plus personne ne se souvint que ces histoires étaient vraies, ou, du moins, avaient un fond de vérité. Pour cette terre, un cycle sans magie commença. Un cycle où les humains purent s'épanouir, bridés par aucune force pour les contrer. Le monde mettrait un temps considérable pour reconstituer ses réserves magiques. Une tourterelle se posa sur un chêne centenaire. Elle roucoula doucement. Au milieu des racines de l'arbre, deux petites pensées fleurissaient. L'une blanche et grise, presque translucide, et l'autre d'un rouge et noir profond. Les plus crédules prêtaient aux pensées des propriétés magiques, mais quiconque possédait un peu de bon sens savait bien qu'il ne s'agissait que de superstitions.